Déjà, je veux vous remercier de m'avoir invité. Le séjour a été agréable. C'est peut-être pour ça qu'il semble si court. Mais c'est bien de se trouver ici. Et c'est vrai que je sens pas le diesel ici. Je sens pas, j'entends pas les bus. J'entends pas. Je sens pas des voitures brûlées. Tout ça, ça me manque un peu. Je vais retourner pour avoir de l'air de chez nous, mais c'est bien d'être avec vous et de pouvoir s'écarter. C'est en fait, le frère disait que c'est la première fois qu'il entend une série sur jusqu'à quand, moi aussi. Je crois que quand il a appelé, il demandait quelque chose, c'était justement dans mon culte personnel, j'avais vu un jusqu'à quand, et puis j'ai regardé dans la concordance, j'avais vu il y en avait un paquet, puis ça touchait un peu partout. J'ai dit bon, avec ça je vais pouvoir faire des choses, et j'ai suggéré jusqu'à quand. Et nous on a traité de juste quelques-uns, vous pouvez prendre vos bibles et chercher les autres, faire la même chose avec et voir ce que Dieu dit. Alors que Dieu est en dehors du temps, il dit jusqu'à quand. Ce matin, nous avons commencé avec un roi 18, où Élie s'approche du peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous ou boiterez-vous des deux côtés ?» Et en nous servant du passage de Jacques, nous avons vu que le doute, en fait, fait de nous des personnes qui sont instables, qui sont une fois à droite, une fois à gauche, et au gré du vent. Puis tout à l'heure, les jeunes nous ont interprété une histoire, et justement, c'était « Pourquoi as-tu douté ?» Pour Jésus, la situation n'était pas si compliquée que ça. Même si pour les disciples, c'était la panique, mais pour Jésus, c'était ça. « Mais pourquoi vous avez douté ?» Finalement, c'est moi qui vous ai envoyé sur la mer et je vous ai promis de vous rejoindre et vous avez interrompu ma prière, ma nuit de prière pour venir vous sortir de là. Si vous n'aviez pas douté, ça aurait été bon. Mais bon, il était gentil. Il a dit pourquoi avez-vous douté, puis après il est intervenu et a dit. Il ne nous fait pas une longue morale, il ne fait pas la leçon quand on est par terre. Il nous ramasse et ensuite il nous enseigne. Et apprenons à le faire aussi. Il dit, je vous propose pour le doute, ce qui est du doute, demandez la sagesse de Dieu avec foi, sans douter, et il vous l'accordera. Et vous pourrez comprendre, vous aurez une meilleure appréciation des passages de votre vie, des événements, des épreuves que Dieu permet et prévoit. Il ne cherche pas notre mal, mais il utilise le mal qui est pour accomplir ses desseins. Dieu ne veut jamais notre mal, mais puisque le mal est là, il s'en sert à bon escient pour accomplir une bonne œuvre en nous. Et si nous avons cette sagesse en haut, nous allons reconnaître l'œuvre de Dieu et être encouragés au sein de l'épreuve. Vous savez, Job avait beaucoup de questions. Et il y a des chapitres de questions. Mais quand tout est terminé, Job est rassuré et il n'a pas les réponses à ses questions. C'est ça, la connaissance de Dieu. Mais il a dit, mais je connais Dieu à un niveau que je ne connaissais pas avant. Et donc je suis rassuré. Finalement, le problème, ce n'est pas la réponse aux questions, c'est arriver à une meilleure connaissance de Dieu. Et les choses déjà deviennent plus claires. Je vous propose Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 et les versets 11 à 16. Éphésiens 4, 11 à 16. Parlant aux chrétiens de l'Église, il dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et dans l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les rues, leurs ruses dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens qui sont de son insistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon l'ordre qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Bon, il y en a beaucoup là-dedans. Il y a un mot qui revient, c'est le fait de croître ou l'accroissement. Il y a celui de l'objet, l'intention, ce que Dieu veut réaliser, c'est avoir un corps de chrétiens bien assemblé, où chacun a sa place. Vous, dans une boîte de puzzle, vous avez tous les morceaux. Mais ce n'est que lorsque tous les morceaux sont assemblés que vous avez le tableau. Et l'église, c'est une boîte où il y a les morceaux, elle est en train d'ajouter les morceaux, mais ils ne sont pas tous tout à fait bien rassemblés, et ce n'est pas très évident de voir ce que ça devient, mais un jour, eh bien, il y aura une épouse glorieuse. Je viens de marier ma fille, bon, je l'ai trouvée belle, je pense que la plupart des gens l'ont trouvée belle. Moi, j'ai jamais vu une mariée qui n'était pas belle. Hein. Mais c'est rien par rapport à ce que Christ est en train de faire. Parce que lui, il dit glorieuse. Il ne dit pas seulement belle, il dit glorieuse. Sans tache ni ride, ni rien de pareil. Encore que les nôtres sur terre, eh bien, elles se servent pas mal du maquillage. Hein. Mais le Seigneur n'aura pas à maquiller la sienne. C'est-à-dire, naturel, ça sera beau. Ça sera glorieux. Parce qu'il aura réglé tout. Mais il nous dit le problème et le risque sur verset 14, c'est que des chrétiens soient flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Il dit ils ont des capacités extraordinaires, ils ont des moyens de séduction qui réussissent. Ça a réussi dans le jardin d'Éden. Et le diable n'a pas trop changé de méthode puisque ça lui réussit encore. Il a même essayé les mêmes avec Christ, c'est le seul où ça n'a pas marché. Christ a su lui répondre et il a répondu par la parole. Mais il nous dit aujourd'hui, et vous le vivez, et c'est constamment, il y a ceci, il y a cela, et plus on est exposé, plus on entend, plus c'est farfelu, plus c'est varié, on ne sait plus où tourner la tête. Je remercie le Seigneur que je sois sauvé, que j'ai vu clair quelque part. Parce que, imaginez quelqu'un qui n'a aucune connaissance de la Bible et qui, d'un coup, il décide, moi, je vais chercher la vérité. Il faut que je trouve. Il va aller où? Il va dans une église, on dit, oui, nous, c'est comme ça, les autres, ils ont tous tort. Il y a le témoignage, justement, d'un frère qui est venu d'Algérie. Il retiré dans les montagnes d'Algérie. Mais de temps en temps, il voyait un film américain et vous savez, souvent dans les films américains, il y a un morceau de culte d'église. Et il a dit, tellement il cherchait, il essayait de retenir les quelques mots qui étaient dits là, il essayait de pour pouvoir les reproduire parce qu'il voulait, Il voulait ça. Mais tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il avait, c'est les petits morceaux qu'il trouvait dans les films. Et il s'accrochait à ça, parce que c'est tout ce qu'il avait. Et puis, il a dit, je suis arrivé au point, je me suis dit, je vais aller en France. Parce que là-bas, c'est chrétien, je vais trouver l'évangile. Alors, il a fait tout le nécessaire, tout ça. Il est arrivé, il a débarqué en France. Et fidèle à son intention, il a été à la première église qu'il a trouvée. C'est à Paris. Il est tombé sur une église catholique intégriste. Alors, imaginez s'il a entendu l'évangile. Mais pour lui, c'était une église. C'est chrétien, il est rentré dedans, et puis il a commencé à faire tout ce qu'on lui disait de faire. Il ne comprenait pas grand-chose, parce qu'il ne parlait même pas le français, alors encore moins le latin. Mais il a fait tout ce qu'on lui faisait faire, il a commencé un catéchisme. Il y avait quelqu'un, un jeune homme catholique qui lui était attribué, qui devait l'accompagner. Et puis après un jour, sur le trottoir, il rencontre deux jeunes hommes en costume, chemise blanche, petit badge. Vous savez de qui je parle. Ils ont dit, viens avec nous. Alors il va chez eux. Il est là pendant quelque temps. Et puis, mais il ne comprend pas grand-chose. Il ne comprend pas le français. Il ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis ensuite, il rencontre un Algérien, Kabyle, qui dit, écoute, tu veux entendre? Écoute, je vais t'emmener chez un frère. Lui, il est chrétien. Il va t'expliquer. Il l'emmène là-bas et il visionne le film Jésus en Kabyle. Alors là, déjà, il commence à comprendre quelque chose. Et puis, alors, il montre cet intérêt, il est en train de chercher. Et puis, il croise un autre frère, Kabyle, qui est chrétien, et qui lui dit, écoute, je sais où je vais t'emmener. Viens avec moi. Et il vous donne rendez-vous et il vient à Saint-Denis. Et là, comme je parle arabe, on avait une langue commune, on a pu commencer à travailler. Et il a enfin trouvé l'évangile. Et il est baptisé. Et il est marié maintenant et il est diacre dans l'église. Mais comment est-ce que lui aurait pu trouver? Il y a tellement d'enseignements, tellement de choses. Mais bon, il a été conduit bien sûr par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a mis des gens sur son chemin pour le conduire. Mais c'est ce qui l'a aidé, c'est une bonne doctrine, une doctrine saine. Et même, il a pu le reconnaître. Quand on cherche Dieu, Dieu cherche, dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Et il a cherché. Il dit, mais parce que j'ai donné à l'Église, justement pour qu'il y ait un enseignement, il a donné des dons particuliers, il a dit, j'ai donné des personnes qui ont cette responsabilité d'enseigner. Et je crois que de nos jours, nous arrivons à une époque où tout le monde veut être maître, tout le monde veut être celui qui décide pour lui-même, celui que, moi, écoute, moi, je pense ceci. Et combien d'études bibliques j'ai assisté où chacun dit ce qu'il pense. Moi, je pense comme ça, moi, je pense comme ça. Moi, je ne suis pas trop à l'aise avec ça, moi, je pense comme ça. Et à la fin de l'étude biblique, on n'en sait pas plus. Et c'est pas comme ça que Jésus a enseigné non plus. Il a donné à l'Église des personnes qui sont capables d'enseigner la parole. Et chacun doit apprendre. Parce que c'est la manière. Il a dit, j'ai donné, bon ça c'est pour couvrir tous les besoins de l'Église depuis sa conception. Et donc il a donné d'abord les apôtres, ensuite et les prophètes, dont le but principal c'était l'exhortation. Et après les évangélistes, qui proclame, qui sème à tout vent, et puis une partie de la semence porte du fruit, celle qui tombe dans les bonnes terres, et ensuite il est confié à des pasteurs, docteurs, qui font un enseignement approfondi, qui nous affermissent dans la doctrine, dans les vérités de la parole, et si Dieu a voulu les donner à l'Église, c'est parce que l'Église en avait besoin. C'est pas pour qu'eux aient un emploi ou qu'ils aient une charge. mais c'est parce que l'Église en a besoin. Et bien sûr, dès que Dieu fait quelque chose de bien, le diable toujours imite avec du faux. Donc dès qu'il y a des docteurs, Dieu invente des docteurs pour enseigner la doctrine, le diable il invente des faux docteurs pour enseigner autre chose. Vous savez, le diable il m'enseigne beaucoup de choses. Parce que dès que je le vois contre quelque chose, je me dis, ah, il doit y avoir quelque chose d'important là. Si lui il est en train d'essayer de me détourner, c'est comme quand allez, je me promène avec ma femme, on passe devant une certaine vitrine, je dis, écoute, regarde là-bas, oh! Et puis elle fait, maintenant elle connaît le truc. Mais je fais ça avec le diable. Dès qu'il me dit, hey, regarde-moi là-bas, je dis, parce que, bon alors après, je ne sais pas comment il fait. Hein. Il se débrouille quand même, hein, il est malin aussi. Mais nous avons besoin d'enseignement. Et nous avons besoin d'une connaissance de la parole. Et quand je dis connaissance de la parole, c'est pas... Ça commence avec la mémorisation, ça commence avec une bonne assimilation du contenu de la Bible, parce qu'il dit « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Mais notre objectif n'est pas seulement de ne pas pécher contre Dieu, mais c'est aussi de pouvoir le suivre et d'avoir du discernement. Et nous avons besoin d'avoir, de pouvoir bien utiliser la parole de Dieu. Et pas seulement... dire, oui, il me semble que quelque part il y a marqué que ça c'est pas convaincant. Il dit la clé c'est la connaissance de la parole, pas seulement la connaissance intellectuelle. Je connais des gens qui connaissent la Bible mieux que moi, puis se retrouvent mieux que moi, mais qui pratiquent autre chose. Tout comme vous pouvez trouver un médecin qui fume, il vous dit que c'est pas bon, ça le conserve, il fume quand même. Ce qu'on a dans le cerveau n'influe pas sur la tête, dans le cœur, dans la vie. C'est ce qu'on a dans le cœur qui influe. C'est ce que j'aime, ce à quoi je m'attache, qui va avoir de l'influence dans ma vie. Et je dois aimer la parole de Dieu. Je dois la désirer. Je dois vouloir je me nourris de cette parole. Et il nous parle de cette connaissance de la parole, des vérités bibliques. Mais le verset 15 est intéressant. Dans le sens qui nous parle de vérité dans l'amour. Et je crois que on a commis l'erreur, c'est de dissocier l'amour de la vérité. Certains vont, c'est carrément la vérité, la vérité, la vérité, même si ça détruit, même si ça casse, même si ça divise, la vérité, la vérité, la vérité. Et puis il y a d'autres, c'est non, l'amour, l'amour, alléluia, je t'aime, alléluia, et puis tout ça, c'est que de l'amour, pas de contenu, mais de l'amour. Il dit, c'est pas ça. C'est pas ça qui va nous empêcher de résister à tout vent de doctrine. C'est la vérité dans l'amour. La vérité associée à l'amour. La vérité enseignée dans l'amour. Mais toujours la vérité. Jésus est venu, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et je crois que c'est très important pour nous, dans notre vie, notre expérience chrétienne, c'est de justement avoir la vérité et l'amour. Vous connaissez très bien 1 Corinthiens 13. Et je veux le lire dans ce contexte-là. Souvent on le lit dans le contexte des langues, on le lit dans le contexte d'autres choses, mais je veux lire ces 4 premiers versets, 3 premiers versets, dans le contexte de l'enseignement. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, c'est-à-dire si j'ai le pouvoir du verbe, si je manipule les mots, si je sais exprimer les pensées, j'arrive à citer plein de phrases que les gens retiennent. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, et quand il parle de don de prophétie, vous pensez le don de l'exhortation. Hein? Quand j'aurai le don de prophétie, la science, c'est-à-dire la compréhension, je saisis les mystères de la parole. si j'ai toutes les connaissances, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, on en parlait tout à l'heure, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, martyr, mais sans l'amour, c'est un gaspillage. Je lisais récemment un livre qui c'est la prédication dans l'amour. Souvent on parle de prédication de la parole. J'enseigne la parole, j'enseigne la vérité, j'enseigne ceci, cela. Il dit, concentre-toi plus de le dire, de l'enseigner avec amour. C'était Moody, Dwight L. Moody, qui a commencé son ministère, un ministère fructueux, mais il prêchait la colère de Dieu, le jugement de Dieu sur le pécheur. Il a eu des âmes sauvées, mais ils sont venus en tremblant. Il les a fait sentir le souffre de l'enfer et ils sont venus à Dieu. Mais par le biais d'un ministère et par le biais d'une autre personne, il est devenu conscient du fait qu'on pouvait prêcher le message de l'évangile, mais du Dieu d'amour, le Dieu qui aime. Et finalement, c'est ça la motivation de Dieu. C'est ce qui est derrière tout l'évangile, c'est l'amour de Dieu. Dieu est d'abord amour. Et tout est enseigné dans l'amour. Et D.L. Moody dit, j'ai vu le fruit se démultiplier. Mais parce que quand j'ai prêché, j'ai pas prêché avec l'épée qui détruit, mais avec la main tendue de l'amour de Dieu pour le pécheur. Et il a dit, c'était autre chose. Il l'a vécu lui-même autrement. Et il a dit, ceux qui écoutaient le voyaient autrement, le recevaient autrement. Et je crois que dans notre vie d'église, c'est l'enseignement, la prédication, la relation d'aide, tout ce qu'on fait avec n'importe qui, si ce n'est pas dans l'amour, c'est une perte de temps. Ça peut, si on l'entend, on entend l'enregistrement, on dit tout est bon. Mais le Saint-Esprit sait s'il y avait le cœur. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et si ce n'est pas enseigné avec l'amour, on se demande si l'Esprit de Dieu est dedans. Je peux dire les choses vraies sans l'amour. Quand on reprend nos enfants et on leur parle, on veut leur enseigner. L'enfant, si je lui parle avec colère ou si je lui parle avec amour, ce n'est pas pareil. Il n'écoute pas pareil. Et je crois que quelque part... la parole, l'enseignement qu'on peut avoir perd de son efficacité et de son impact parce que parfois je manque d'amour. Et quelque part, et c'est peut-être la partie la plus difficile dans la préparation, c'est est-ce que j'aime ceux qui sont là? Est-ce que j'ai laissé, je cherche leur bien, je veux les encourager, je veux les relever. Je veux leur donner une parole qui leur permet, à laquelle ils s'accrochent et disent, moi, je suis prêt à repartir. Parce que la réalité, c'est de nos jours, les gens dans nos églises, c'est des gens meurtris. Ils ont été bousculés pendant toute la semaine. Ils ont pris des coups. Et ils viennent à l'église vraiment. Beaucoup viennent en piteux état. Ça se voit pas, mais c'est réel. Et je crois que c'est très important pour nous d'enseigner ce message, mais dans l'amour. Et le résultat sera très différent. On donnera du courage à celui qui n'en a plus. Quand il a donné les hommes les dons, les capacités d'enseigner, mais après il ajoute, que ça soit fait dans l'amour. Et ceci favorisera la croissance. On peut conduire un troupeau en tenant un bâton, et on peut conduire un troupeau en aimant les brebis et en marchant devant elles, et elles suivent. Jésus est le bon berger, Il a un bâton, mais ce n'est pas pour les brebis, c'est pour le loup. Et le loup, il voit le bâton, il dit là, il faut que j'évite ça. Donc il ne s'attaque jamais aux brebis qui sont près du berger. Il s'attaque uniquement aux brebis qui sont les plus éloignées du berger. Parce que le bâton n'est pas si long que ça quand même. Réalité, vous voulez marcher près du berger. C'est l'endroit le plus sûr. David a dit, moi, ton bâton me rassure. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que je sais que lui, il voit le bâton. Et moi, je vois le berger qui m'aime et qui prend soin de moi. Et nous, en tant que pasteurs, eh bien, nous devons être des bergers à l'image de Christ, qui est toujours avec amour, qui, quand il trouve une brebis qui s'est égarée, qui est tombée, il ne lui donne pas des coups de pied jusqu'à ce qu'elle rentre à la bergerie, mais il la ramasse sur son épaule et il la porte jusqu'à la bergerie. Et quand il se réjouit déjà quand il la trouve, et quand il arrive à la bergerie, il se réjouit avec les autres qui sont à la bergerie. C'est ça le berger que nous avons. Et c'est là où les brebis vont commencer à pouvoir entendre. Et elles vont écouter l'enseignement. Et une fois qu'elles ont cet enseignement concernant Dieu, eh bien, elles ne seront plus flottantes et emportées par tout vent de doctrine. Elles vont dire non, je connais la voix du berger. Ceux qui me connaissent savent que tôt ou tard, quand je prêche, je parle d'Algérie. Je vais le faire. Nous étions avec mon frère, on était dans les hauts plateaux de l'Algérie, et il y a beaucoup de troupeaux, et puis après il y a des puits. Alors les bergers arrivent près de ces puits-là, et puis les brebis étanchent leur soif, et puis après ils repartent. Et une fois, avec mon père, on s'est arrêté là, près du puits, et puis les troupeaux sont arrivés de plusieurs directions. Puis elles se sont mélangées là-dedans. Puis il y avait plein de moutons, et c'était tout mélangé, ils buvaient tous ensemble. Je me dis, mais bon, comment ils vont faire maintenant? Et après, à un moment, il y a un des bergers qui se lève, il commence à partir. Il siffle d'une certaine manière, et puis il se met à marcher. Tout d'un coup, il y a une brebis là-bas, qui lève la tête, puis l'autre là-bas, et puis tout d'un coup, le troupeau s'est constitué, tout seul. Mon frère, il allait être malin, il avait entendu le siffler, il allait le reproduire. Et il l'a reproduit. Mais il n'y a pas une brebis qui a regardé de son côté. Cette image, elle me reste là, gravée. Elles connaissent la voix de leur brebis, de leur berger. Je remarque à l'église, on a une crèche et parfois on peut avoir jusqu'à 8, 9, 12 bébés hein, dans la crèche. Et enfin, il y a une époque où la crèche c'était plus près, on pouvait entendre ce qui se passait dans la crèche. Mais à un moment, il y a un bébé qui hurle, mais il n'y a toujours qu'une seule femme qui se lève. C'est quand même étonnant. Hein? Il y aurait peut-être eu plusieurs hommes, hein, si c'était les pères. Mais il n'y a qu'une seule femme qui se levait. Et je crois que c'est cette relation, c'est de développer, nous encourager, d'avoir cette relation avec notre berger. L'enseignement de la parole. On entend, on commence à reconnaître la voix. Et peut-être vous entendez un jour, on vous présente quelque chose de nouveau, on me dit, mais je sais pas, jamais réfléchi sur le sujet, mais bon, ça me paraît drôle. Ça, c'est pas tout à fait la voix de mon maître. Et puis sans avoir de bonnes raisons pour refuser, vous dites, non, il y a quelque chose, ça va pas. Pourquoi? C'est comme ceux qui manipulent les faux billets. Alors maintenant, on a des machines, on place ça sous la lampe et puis on veut voir s'il y a un faux billet. Mais pendant longtemps, ils n'ont pas eu ces petites machines-là. Je me rappelle, je descends à Barbès, à Paris, hein, vous avez certainement entendu parler, hein, c'est un endroit vraiment connu. Hein. Et je voulais acheter quelque chose, une théière marocaine. Je venais de tirer des billets du distributeur, c'était des billets neufs, les craquelants là. Et je descends là-bas et je veux acheter. Alors je sors mes billets tout neufs, là je donne. Le gars il me regarde, il regarde les billets. Et puis il se dit, celui-là peut-être il veut écouler des billets là. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle d'une autre boutique, il appelle un petit jeune là, qui a peut-être 12-13 ans. Il dit, tiens, attrape ça. Qu'est-ce que tu penses? Le gars il prend ça, il froisse. Il dit, non c'est bon. Il dit, t'es sûr? Je suis, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et en touchant, comment est-ce qu'il a su? À force de toucher des bons billets, il arrive à reconnaître des faux. Et il a touché, et tout le monde dans le quartier avait confiance en lui. Il a touché. Vous savez, c'est pas en s'exposant à tout ce qui se raconte dans le monde qu'on va trouver la vérité. C'est en nous concentrant sur les bons billets, après on reconnaîtra les faux billets. Restez attachés à la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. Écoutez, le Seigneur nous a donné quelqu'un pour enseigner, qui nous enseigne. Et vous savez pas, mais vous savez, on en parle rarement, mais si vous voulez faire une étude intéressante, allez trouver toutes les fois que l'apôtre Paul a pleuré. Et pour qui il pleurait. Et vous trouverez la réponse pourquoi il était si efficace. Mais lui aimait ses églises. Et il les portait. Et il pleurait pour elles. Il n'a jamais pleuré pour lui. Il a toujours pleuré pour les autres. Et le Seigneur nous donne des personnes, et vous ne savez pas combien votre pasteur pleure pour vous, et combien de fois il est peiné, attristé, quand vous souffrez, quand vous passez par des moments difficiles, quand vous avez du doute, il vous porte. Le Seigneur a donné ces hommes, c'est pour notre enseignement. Pourquoi ne soyons pas des chrétiens flottants, ballottés dans tous les sens et tout vent de doctrine? C'est pour que nous puissions vraiment connaître la voix de notre Seigneur, notre Maître, et être fidèles. Pour que nous ne soyons pas une fois à droite, une fois à gauche. Le secret d'une Église stable est l'enseignement de la vérité dans l'amour. Et c'est, encore une fois, l'amour, ce n'est pas la déclaration d'amour, c'est l'acte d'amour. Dieu nous approuve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a dit combien il nous aimait par un acte, pas seulement par des paroles. Et lorsque nous aurons demandé à Dieu la sagesse par la foi et que nous sommes prêts à marcher, et lorsque nous avons l'oreille tendue pour recevoir l'enseignement que Dieu nous donne au travers des hommes qu'il a choisis et sur lequel vous voyez le signe de son approbation, pas le talent. Le talent n'est pas le signe. La bénédiction sur son ministère. Le fruit spirituel qui dégage. Lorsque vous voyez cela, dites, voilà, je reste attaché. C'est ce que Dieu m'a donné, je reste attaché. Et je marche jusqu'au bout, parce que je ne veux pas être un chrétien un peu dans tous les sens, qui ne peut pas se développer, tandis que son intention pour nous, c'est que nous devenions vraiment à l'image de Christ. Et cela doit se constituer en nous. Alors, la question encore une fois, jusqu'à quand boiterez-vous dans votre vie chrétienne? Alors que la réponse est là. Jusqu'à quand allez-vous vivre dans le doute, alors qu'il y a de quoi régler le doute? Jusqu'à quand allez-vous laisser emporter à droite, à gauche, je ne sais pas, une fois je suis dans cette église, je suis là, j'étais bien là, non, après j'étais pas bien là, puis après j'étais là-bas, puis celui-là, il n'était pas gentil avec moi. Et puis, il y en a qui ont de drôles de parcours. Alors que, Seigneur, conduis-moi vers celui que ton homme, qui va m'enseigner ta parole, ta vérité, et je vais m'y attacher parce que j'en ai assez d'être instable dans ma vie chrétienne, dans ma vie spirituelle. Je veux pouvoir croître. Et ça, le Seigneur veut notre croissance. Il veut faire son œuvre. Et il a payé cher pour l'avoir, il a tout mis, il nous a donné la parole, il nous a donné son esprit qui est en nous pour nous aider à comprendre la parole et la mettre en pratique. Et il a tout fait. Il fait toutes choses à merveille, il a été dit. Eh bien, ce qu'il a fait pour nous, c'est à merveille. Si ça ne se passe pas à merveille, le tort doit être de notre côté. Le maillon faible est toujours de notre côté, c'est jamais du côté de Dieu. C'est toujours de notre côté, et c'est vers nous qu'il faut regarder. Et en général, il faut regarder dans le miroir pour savoir qui est le coupable. On en trouve un toujours là. Et dire, Seigneur, je veux plus la vie que je vivais, je veux plus la vivre comme je la vivais, je veux quelque chose que tu me donnes. J'ai déjà vu des gens qui vivent au sein de la souffrance, et toute leur vie est une souffrance, mais stable, ferme. Il y en a, toute leur vie, c'est une épreuve. Ils sont mariés à quelqu'un qui est dur, qui ne partage pas. Leur vie est une épreuve, tous les jours est une épreuve, mais stable, qui aime le Seigneur. Vous savez, il y a des gens, quand on arrive dans la gloire, sur terre, il y a des gens qu'on honore. On dit, ouais, Steve Barnes, vous connaissez Steve Barnes? Oui, Steve Barnes. Vous savez, quand on arrivera au ciel, ce sera d'autres noms qui seront nommés. Parce qu'il y en a qui, le Seigneur admire plus que ça. Et il y en a qui ne sont pas connus sur terre, mais dans la gloire, ils seront reconnus. Ne vous découragez, vous dites, mais moi, je ne serai jamais quelque chose. Écoute, le Seigneur récompense ceux qui sont fidèles. Et n'importe qui peut être fidèle. On n'a pas besoin d'être un homme dans l'église pour être fidèle. Il y a des femmes fidèles. Il y a des gens extraordinaires. Il y a des gens qui ne sont même pas connus dans ce monde et qu'on rencontre, mais qui sont attachés au Seigneur. Je vois, la liste des who's who dans la gloire, ce sera autre chose que celle qui est sur terre. Ne vous découragez pas parce que vous ne comptez pas pour beaucoup ici sur terre. Ce qui importe, c'est ce que vous compterez là-haut. Ce sera plus long. Et c'est bien plus agréable. En terminant, laissez-moi vous dire comment j'imagine la gloire quand on va y arriver. Parce qu'il y a une étape quelque part où nous recevons des récompenses. Il va récompenser ceux qui sont fidèles. Et c'est en fonction de notre fidélité que nous serons récompensés. Les récompenses sont des couronnes. Les couronnes, c'est pas pour que j'en ai sept sur la tête et puis je me balade comme ça au ciel pendant l'éternité avec mes sept couronnes. Il y a un principe qui est enseigné dans l'Ancien Testament. Il dit, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel ton Dieu les mains vides. Et comme je n'emporte rien d'ici, tout ce que j'aurai dans mes mains, c'est ce que Dieu me donne là-haut. Et j'ai besoin de ces couronnes pour pouvoir me présenter devant Dieu et avoir quelque chose à lui présenter. Il dit, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel ton Dieu les mains vides. Et c'est seulement ces récompenses-là. Dieu a pourvu de quoi mettre dans nos mains pour que nous puissions adorer Dieu correctement. Mais c'est ici que ça se décide. Je ne dis pas que vous garantissez votre salut, ça n'a rien à faire. Le salut, c'est un don gratuit, il l'a fait. Et ce n'est pas comme les témoins de Jéhovah. J'ai demandé une fois aux témoins de Jéhovah. Et ils ont dit, mais nous, on fait du porte-à-porte. Je dis, pourquoi vous le faites? Ah ben, nous, parce que sinon, c'est comme ça qu'on acquiert nos robes blanches. Sinon, dans la gloire, on n'aura rien à porter, on sera tout nu, ce sera un peu la honte. Bon, c'est une motivation, hein. Mais c'est pas ça que dit la parole. Il dit, la robe blanche, il nous la donne à tous. Mais les récompenses, ils disent comme ça, tu auras de quoi présenter. Et ça, c'est la fidélité. Et on ne peut pas se comparer les uns aux autres, parce que ce que le Seigneur a exige de l'un, ce n'est pas ce qu'il exige de l'autre. Et la fidélité, c'est de faire ce qu'il demande de faire. Et ce n'est pas la même chose, ils nous traitent tous différemment. Moi, je trouve, vous savez, plus je comprends Dieu, plus je le trouve extraordinaire. Plus je trouve ce qui est, sa pensée juste. Plus je trouve son système bon. Il est supérieur à n'importe quelle religion sur terre. Supérieur à n'importe quel système. Vraiment, ça fait plus de 50 ans que je suis au Seigneur. Ça fait plus de 35 ans que je suis dans le ministère. Et si j'avais à recommencer, je voudrais refaire la même chose, mais être un peu plus fidèle, un peu plus attentif. Prendre moins de coups pour apprendre une leçon. Mais sinon, c'est la meilleure chose. C'est un privilège. On n'est pas obligé d'être pasteur pour être serviteur de Dieu. On est serviteur de Dieu là où le Seigneur nous place, dans le corps. D'être une lumière, d'être un témoin à la gloire de Dieu, là où nous sommes. Et nous sommes chacun à des postes stratégiques. Votre pasteur n'a aucun accès à là où vous travaillez. Il n'y a que vous. Il y a une raison pourquoi vous avez cet emploi. Et il y a une raison pourquoi vous avez un certain voisin. Il y a une raison pourquoi vous rencontrez certaines personnes à la boulangerie. Il y a une raison. Tout ça, c'est le plan de Dieu. Et c'est un beau plan. Et ce sont des opportunités qu'il nous donne pour pouvoir nous préparer. Lui, il nous prépare une place, mais à nous de nous préparer pour la place. On ne complète pas ce qu'il nous a donné, on jouit pleinement de ce qu'il nous a donné. Jusqu'à quand est-ce que vous allez penser, jusqu'à quand hésiterez-vous de prendre possession du territoire? Prendre possession de tout ce qu'il a réservé pour nous. Jusqu'à quand est-ce qu'on attend avant de prendre possession pleinement? Et on peut le faire. Je vous remercie énormément pour cette opportunité de vraiment partager ces choses que j'aime, ces pensées que j'aime. Et que le Seigneur nous aide, vous et moi, là où nous sommes, à être fidèles. Et à vraiment manifester l'amour de Dieu. Nous avons un privilège extraordinaire et faisons-le. Et puis si le Seigneur vous envoie ailleurs qu'en France, dans votre pays d'origine, ou vous envoie dans un autre pays, vous avez une opportunité de faire un voyage missionnaire pendant l'été, quelque part, toutes les opportunités sont bonnes. On tire beaucoup de joie à servir Dieu et être disponible pour lui. Mais si on ne sait pas traverser la rue pour lui, c'est difficile de traverser la mer pour lui. Ça ne change rien, hein. c'est pas l'avion, hein. C'est pas en Air France que se passent les miracles. Encore si vous trouvez un avion, hein. Ils étaient en grève, ils sont encore en grève là. Et voilà, que le Seigneur nous aide. Et un dernier mot, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, si vous dites tout ça, ça a l'air beau, mais je ne connais pas du tout. Vous savez, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est d'aller vers Jésus. Dire Jésus, écoute, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, je découvre des choses concernant moi, et il me semble que toi tu as la réponse. Tu as quand même fait un grand geste, tu es mort sur la croix pour moi. Et si je comprends bien, c'était pour me délivrer de mon péché. Veux-tu bien me pardonner mes péchés, et je veux dorénavant vivre pour toi. Vous savez, il y a une chose qui s'enclenchera dans votre cœur, qui changera le cours de votre vie. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de problème, hein, je ne vous dis pas qu'après ce sera tout des roses de partout, parce que même les roses ça a des épines. Il y aura des difficultés, mais on les vit autrement, à la gloire de Dieu. Prions. Père Céleste, encore une fois, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ta disponibilité vis-à-vis de nous, alors que tu es le grand Dieu, tu n'as pas besoin de nous. Tu peux vivre et exister sans nous. Tu as existé pendant l'éternité passée sans nous. Tu nous as créés et tu nous offres la possibilité de te choisir afin de te glorifier et de partager l'éternité à venir avec toi. Seigneur, c'est une offre extraordinaire que nous ne pouvons pas refuser. Pardonne-nous d'être distraits par des petits conforts et des petits plaisirs ici sur terre qui sont très passagers. Alors que toi, tu nous offres quelque chose qui est de longue durée. Mais merci Seigneur que de ce que quand tu nous donnes la vie éternelle, c'est tout de suite que tu nous la donnes et quand nous pouvons la vivre dès maintenant, en attendant que sa complète réalisation, quand tu nous reprendras pour entrer dans ta gloire. Mais Seigneur, tu connais chaque cœur, tu connais quelle est la souffrance de chacun, tu sais quelles sont les peines de chacun, tu sais quelles sont les frustrations de chacun. Et je suis sûr qu'il y en a ici qui portent des peines qu'ils n'ont partagées avec personne. Seigneur, tu sais, tu comprends. Et tu dis jusqu'à quand vas-tu attendre avant de décharger sur moi de tout ce qui te peine afin que je prenne soin de toi. Seigneur, tu prends notre péché comme tu nous prends nos défauts, comme tu prends notre passé, comme tu prends nos échecs, et tu prends tout cela. Et tu t'en charges et tu reconstruis une nouvelle vie avec nous. Seigneur, tu connais chacun et réponds aux besoins de chacun selon son besoin, son vrai besoin. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen.
Nous a ramené dans les lieux célestes. Ma responsabilité, c'est de revenir par terre et travailler. Donc, je serai beaucoup moins aimé que Steve. Ce n'est pas grave, j'accepte mon rôle. Ils vont partir bientôt. Nous avons quatre équipes: Job, Moïse, David, Josué. Si vous écoutez bien, on est une soixantaine de personnes. Beaucoup de mains, c'est énorme pour une dizaine de personnes, mais pour 70, facile. Donc si vous écoutez bien, parce que c'est Job qui faisait le repas aujourd'hui, vous êtes déjà occupé par la cuisine, par la vaisselle. Donc, travail de l'équipe de Job, les deux cuisines dans le château, ça sera votre responsabilité avec la vaisselle. Et Moïse, si vous pouvez vous en occuper avec cette salle, remettre toutes les choses en place proprement, et puis passer l'éponge et tout ça après le balai de cette ici, et aider ceux qui font la cuisine à côté. Ça, c'est Moïse qui fera ça. David, votre équipe va tout ce qui n'est pas chambre. Parce que chaque personne s'en occupe avec votre chambre. Laissez-la un peu, ou même beaucoup plus propre que ce que vous avez trouvé. D'accord? Donc, mais ce qui n'est pas chambre, c'est-à-dire les couloirs, les escaliers, l'équipe de David s'en occupe avec le château, et l'équipe de Josué, tout ce qui n'est pas chambre dans les cèdres. Et aussi aider voir dans cette cuisine. Donc Moïse et Josué regardent ensemble cette cuisine ici. Job, les deux cuisines là-bas. Tout a été compris. Et puis tout le monde regardait à l'extérieur s'il y avait des papiers à gauche, à droite, on peut regarder.
Je n'ai pas trouvé en haut, là, dans ma chambre en haut, dans les armoires. Je n'ai pas trouvé un tenu entretien.
Qu'est-ce que vous trouvez, toi?
Les armoires qui ont été. Il n'y a pas de tenu entretien, tout est vide. Ils sont où les produits qu'il y avait
l'année dernière? Et qui veut le remplir de quoi?
Normalement, il y avait les couilles en plus avant, dans les armoires.
D'accord, mais laissez comme c'était, mais juste propre. D'accord, laissez tout.
Monsieur, on tire l'arrière qui est poli.
Ah, pour balayer, c'est ça, monsieur?
Oui,
il y a trois ou quatre balais ici, c'est vrai. C'est
la lavabo,
le produit,
le sanitaire. Le produit sanitaire. Je crois que le décès handicapé. Dans le château, il y a des produits, je crois. J'ai dit un peu. Tout ça, c'est mal, pas très, très bien équipé quand même. Faisons un autre bien. Sans produits, même si c'est nécessaire.
C'est sûr qu'il n'y a pas de difficulté bien de demander à chaque équipe de se rencontrer dans un lieu propice, désigné déjà pour s'occuper de lui.
Ok, si l'équipe de David, par exemple, rencontrez-vous dans le grand salle de château, Moïse ici.
Grand plaisir. Un
plaisir de faire un
point avec
le Seigneur, t'accompagne d'accord.
Merci toi aussi. Voilà. Qu'il te protège dans ton voyage.
Merci. Merci.
Et puis que ton souhait se réalise pour retourner en Algérie un petit peu.
Oui, voilà. Voilà.
C'est un grand plaisir, merci.
Voilà.
À bientôt.
À bientôt, oui.
Mais
non, ah oui, j'allais l'emporter. Merci beaucoup, voilà. Très bien.